Dans l'actualité des idées aujourd'hui, faut-il faire la morale aux intellectuels et pas que? Notre invité, le philosophe Pascal Engel, directeur d'études à l'EHESS, membre du Centre de recherche sur les arts et le langage, signe aujourd'hui chez Agone Éditions un essai, Les vices du savoir, essai d'éthique intellectuelle. Alors, quelles relations les intellectuels, mais aussi les médias, les politiques, entretiennent-ils aujourd'hui avec la vérité? Dans des sociétés où le baratin semble être devenu la règle, ils s'intéressent à redonner du sens à cette valeur longtemps dénigrée. Bonjour Pascal Engel.
Bonjour.
Quelle est tout d'abord votre définition de la vérité?
Ma définition de la vérité est très simple, c'est la définition classique, c'est la correspondance avec les faits.
Point.
Point.
Depuis quelques décennies, la philosophie s'est orientée vers la fin de la vérité. Voilà ce que déplorait en 2017 le philosophe Michel Serres.
Tous les philosophes qui m'ont précédé n'ont fait que s'attaquer à la notion de vérité. Et comme ils n'avaient pas fait de science, aucun d'entre eux, et ça leur était facile de relativiser à mort la fonction de vérité. Et donc toute la philosophie s'est orientée vers la fin de la vérité, et ce que vous appelez aujourd'hui cette post-vérité, c'est un peu eux qui s'en sont responsables.
La vérité, ça existe.
Ah mais j'en suis le porteur absolument. C'est-à-dire il y a des vérités mathématiques, il y a des vérités physiques, il y a des vérités scientifiques, etc. Bien sûr, mais eux l'ont oublié. Et M. Trump, du coup, l'a oublié. Et M. Poutine l'a oublié aussi. Et aujourd'hui, au fond, dans les médias, on ne demande pas si l'aspirine est efficace. Non, non, on demande combien de gens pensent que l'aspirine est efficace. Ça change tout, ma chère. C'est-à-dire, la vérité, c'est oui ou non, est-elle efficace? Ou statistiquement, est-elle efficace? Mais la question n'est pas, évidemment, combien de gens. La vérité n'a rien à voir avec le nombre des gens qu'elle persuade. Voilà. Et là aussi, nous avons fait des progrès. C'était pas mieux avant. Voilà.
Michel Serres au micro de L'Heure Bleue et de Laure Adler sur France Inter. Michel Serres, philosophe et historien des sciences qui nous a quittés le 1er juin dernier. On a perdu avec lui, Pascal Engel, un penseur de raison qui avait surtout la mémoire longue.
Je suis très content d'entendre dire Michel Serres que la vérité est quelque chose que nous, les philosophes auparavant et avant lui avaient oublié, parce que je ne l'ai pas connu toujours tenant ce type de discours lui-même. Il a participé à une génération qui précisément nous a répandu l'idée d'un savoir pluriel, et il n'était pas toujours très très loin de l'idée qu'il y a différentes sortes de versions des choses. Donc si il se retrouve défendant la connaissance, c'est très bien, j'en suis ravi. Mais j'oublie pas aussi que j'ai autrefois un peu polémiqué avec lui précisément sur ces points-là, non pas parce que j'étais pas d'accord avec lui sur la notion de vérité, mais parce que je trouvais justement qu'il avait une vision un petit peu trop idyllique de la manière dont le savoir se distribue.
Peut-être que c'est une preuve d'intelligence pour commencer de savoir évoluer. Peut-être aussi que à chaque époque, sa vérité ou la relation que l'on peut entretenir avec cette vérité. Est-ce que vous diriez justement qu'aujourd'hui, le dénigrement de la vérité est devenu un trait spécifique de notre époque?
Alors, je ne crois pas qu'il y ait à chaque époque sa vérité, parce que je ne suis pas du tout d'accord ni avec, disons, ce qu'on pourrait appeler le relativisme vulgaire, ni avec une sorte de relativisme subtil qui nous vient de l'hegelianisme, de Hegel, de l'idée qu'il y a à chaque époque une sorte d'air du temps que tout le monde est obligé de respirer. Et donc, ça, je ne suis pas d'accord avec ça. En revanche, effectivement, c'est exact qu'il y a une ambiance, une atmosphère intellectuelle de ce que l'on pourrait appeler en effet le dénigrement, ou peut-être même, puisque ce sont des mots qui sont à la mode, la vériphobie.
Pire encore alors.
Oui, la vériphobie.
Et pourquoi fait-elle peur, cette vérité? Pourquoi
est-elle dénigrée aujourd'hui? Il y a une double attitude vis-à-vis de la vérité dans la culture contemporaine. Disons-le, dans l'esprit du temps. D'un côté, on a très très peur des gens qui parlent au nom de la vérité. On a très très peur des diseurs de vérité. Et on se méfie également des experts. Ça, c'est un premier élément. Le deuxième, c'est qu'en même temps, les gens ont une soif de vérité. Ils veulent savoir la vérité sur leurs médicaments. Ils veulent savoir la vérité sur les choses qu'ils mangent, sur le climat dans lequel ils vont vivre. Donc, il y a une sorte d'ambivalence qui crée une sorte de scepticisme qui est lié au scepticisme. Alors maintenant, les philosophes, leur attitude a été, il faut le dire quand même, assez irresponsable. Ils ont donné, comme l'a dit Michel Serres, dans cette espèce de vériphobie pendant des années.
Ce que vous dites dans Les Vices du Savoir, c'est que aujourd'hui, pour beaucoup, la vérité n'est plus une valeur, que c'est même une anti-valeur ou une valeur qui aurait été remplacée, qu'on aurait négligée, mis de côté, qu'on aurait remplacée par d'autres valeurs qui sembleraient plus importantes aujourd'hui, lesquelles ?
Bon, quand les gens disent que la vérité a de la valeur, ils admettent quand même une chose minimale qui est que c'est utile. Il est utile de connaître l'état de son compte en banque, il est utile de savoir ce que le médecin vous dit quand il vous décrit sa maladie. Donc la valeur de la vérité comme utilité, ça personne ne la nie et on ne va pas essayer de se raconter des histoires systématiquement. En revanche, l'idée de la vérité comme valeur au sens qui m'intéresse moi, c'est-à-dire comme une valeur quasi éthique, au sens de ce à quoi se consacre la recherche intellectuelle, scientifique, effectivement, cette valeur me semble être particulièrement dénigrée, en perte de vitesse. Et ça, c'est parce que, comme je le disais tout à l'heure, on a l'impression que des vérités, notamment dans le domaine moral, dans le domaine politique, dans le domaine métaphysique peut-être, sont des vérités dont on n'a pas vraiment besoin. Donc il y a un élément qu'on pourrait appeler un peu philistin ou positiviste dans l'époque, c'est pas nouveau, toutes les époques ont ça, mais en même temps il y a une méfiance spécifique, comme je le disais, pour les diseurs de vérité. Beaucoup de gens pensent que la vérité c'est une espèce de cache-sexe qui est une notion idéologique destinée à vous imposer l'autorité. J'avais un professeur autrefois qui disait que la distinction entre le vrai et le faux était une sorte de partage autoritaire. Vous mettez d'un côté ce qui est vrai, de l'autre côté ce qui est faux, donc le faux c'est pas bien. Et il y a aussi beaucoup de gens qui maintenant disent bah finalement le faux c'est pas mal.
Vous dites que la philosophie, ou plutôt les philosophes, ont une grande part de responsabilité dans cette évolution de notre relation avec la vérité notamment dans les discours. Vous vous opposez dans cet essai au courant postmoderniste qui a relativisé la vérité, et en particulier à Michel Foucault, avec sa notion de régime de vérité, celle qu'il a introduite. Écoutez justement Michel Foucault, en 1975, extrait de Radioscopie.
Je dirais que c'est là, à partir de l'asile, que m'est apparu un espèce de problème qui n'a pas cessé de me hanter, qui est, si vous voulez, le problème du pouvoir. C'est-à-dire qu'il n'est pas vrai que la connaissance puisse fonctionner, ou si vous voulez, que l'on puisse découvrir la vérité, la réalité, l'objectivité des choses, sans mettre en jeu un certain pouvoir, une certaine forme de domination, une certaine forme d'assujettissement. Bon. Connaître et assujettir, savoir et commander, ce sont des choses qui sont intimement liées. Et si vous voulez, je l'ai découvert à l'état pur dans l'asile, où là, le savoir médical, la connaissance apparemment sereine et spéculative du psychiatre est absolument indissociable d'un pouvoir extraordinairement méticuleux, savamment hiérarchisé, qui se déploie dans l'asile et qui constitue véritablement l'asile.
Il fait le lien entre vérité et pouvoir. Qu'est-ce que vous reprochez exactement à Michel Foucault ?
Je pense que simplement, il va trop loin. Il n'est pas faux qu'il y ait des liens entre le savoir et le pouvoir. Mais lesquels ? Est-ce qu'il faut systématiquement assimiler le savoir à du pouvoir, comme il l'a fait à certaines époques ? Non. Est-ce qu'il faut systématiquement soutenir que la politique doit porter sur le pouvoir et plus sur le savoir et que la libération va être une libération du savoir. Ça, ce sont effectivement des positions qui me semblent parfaitement antithétiques par rapport aux miennes et que j'essaye dans mon livre de discuter en renversant les choses, précisément en repartant de la notion de savoir, en désintriquant la notion de savoir de celle de pouvoir. Donc je fais en quelque sorte le chemin inverse de celui de Michel Foucault. On va me dire que je suis un vieux platonicien, on peut peut-être dire les choses de cette manière-là. Michel Foucault avait fait un article dans lequel il expliquait qu'il y avait un mythe qui était celui de l'isolement du savoir par rapport au pouvoir, qui avait été promu par les Grecs. Et finalement, il me semble pas que ce soit tellement un mythe, même si évidemment les composantes sociales, les composantes historiques du savoir, il s'agit absolument pas de les nier. Je mets l'accent sur le savoir parce que, si vous voulez, la vérité c'est une chose, mais le savoir c'en est une autre. Le savoir c'est la vérité certifiée, la vérité justifiée, c'est-à-dire c'est ça la chose qui est importante aujourd'hui. Vous pourriez très bien avoir de la vérité sans pour autant avoir la justification qui va avec. Donc, en ce sens-là, je m'intéresse plutôt au savoir. Et alors, puisque vous me parlez de Foucault, je voudrais dire aussi que il m'a énormément inspiré, mais négativement, car c'est dans ses dernières œuvres qu'il a parlé d'une éthique intellectuelle. Mais précisément, son éthique intellectuelle était entièrement divorcée de l'idée de savoir. Il a essayé de faire, et en un sens, il a accompli le programme qui était celui de Nietzsche et de ceux que j'appelais les vériphobes et tous leurs disciples, qui était de recréer une éthique sans la notion de savoir, sans la connaissance. Et j'essaye de faire, en fait, exactement l'inverse. Il me semble que non seulement il peut pas y avoir d'éthique sans connaissance, et c'était un peu ce que disait Socrate, hein, pour apprendre la vertu, il faut savoir un peu ce que c'est que le bien. Et puis d'autre part, c'est aussi le fait que je pense que à l'intérieur même du savoir, il y a des questions éthiques qui se posent. C'est pour ça que je traite d'éthique intellectuelle. Et si vous regardez les œuvres de Foucault, à aucun moment il ne se pose ce type de questions.
Et vous réhabilitez aussi Descartes contre Foucault, Descartes qui aurait contribué à la division entre éthique et connaissance, Pascal Angèle. Juste sur Foucault, est-ce qu'il n'avait pas quand même lui une volonté aussi de démocratiser la vérité, de ne plus en faire une propriété élitiste, exclusive du pouvoir entre les mains des élites intellectuelles? Est-ce qu'il n'y avait pas là-dedans une idée intéressante pour vous?
Je suis pas sûr que Foucault ait lui-même véritablement souhaité démocratiser la vérité. On peut même dire que dans sa carrière universitaire, il s'est pas réellement comporté de façon très très différente de ses aînés quand ils étaient des mandarins, mais en même temps...
Là, vous blâmez l'homme. Vous...
Oui, évidemment,
mais
je ne vois pas en quoi... Je n'arrive pas très bien. Il avait une œuvre, il avait une philosophie de la libération. Mais sa philosophie de la libération est passée par l'exclusion de toutes les notions que j'appelle dans mon livre épistémiques, c'est-à-dire la vérité, la connaissance, la justification. On se libère en se libérant de la vérité. Donc, il n'a pas spécialement démocratisé la vérité. Ça, c'est plutôt un courant, disons, contemporain, qui fait que tout le monde, en quelque sorte, estime avoir le droit à son opinion. Il y a une certaine conception de la démocratie dans laquelle, finalement, la vérité est pour tout le monde, tout le monde a le droit de la donner, et les experts n'ont pas d'éminence particulière. Donc, si Michel Foucault a fait ça, alors, effectivement, il a rien fait de très très original, parce que la plupart des autres auteurs ont défendu cette idée. Mais lui, il a fait quelque chose d'original, qui était d'essayer de se débarrasser dans un programme de libération de la vérité. Or, à mon avis, c'est exactement là encore, je m'excuse de m'opposer, le contraire qu'il faut faire, car la vérité est libératrice, le savoir est libératrice. C'est pas parce que les gens se sont débarrassés de la vérité que ils se sont libérés. Au contraire, c'est en la connaissant, c'est en y ayant accès, et en y ayant accès sans pour autant la dénaturer.
En défendant la vérité, vous défendez la démocratie.
Je pense que il n'y a pas de démocratie sans qu'il y ait un certain nombre de valeurs. La vérité n'en est pas une, n'est pas une des seules. D'ailleurs, en elle-même, la vérité n'a pas de valeur. Le fait que ce livre est sur la table est vrai ou faux, ça n'a pas de valeur en soi. C'est un fait. Mais en revanche, le fait de croire la vérité, le fait de connaître la vérité, ça, ce sont des valeurs, ce sont des choses pour lesquelles il faut se battre. Et en fait, traditionnellement, la démocratie a toujours été associée au fait de pouvoir disposer du savoir. Pensez simplement à l'époque où il y avait l'affaire Dreyfus et où on cachait la vérité. Ce qui était antidémocratique, c'était de la cacher. Et habituellement, c'est ce que font la plupart des régimes dictatoriaux, c'est-à-dire menacer le savoir. Et nous en avons des exemples extrêmement frappants tout récemment.
Est-ce que pour vous, ces penseurs, tels Michel Foucault, sont quand même en partie responsables aujourd'hui de l'atmosphère, de cette impertinence ou de cette malhonnêteté intellectuelle qu'on connaîtrait aujourd'hui ? On parle de l'ère des fake news, de l'ère de la post-vérité. Vous, vous faites un portrait sans concession dans cet essai du bullshitter, le producteur de foutaises. Est-ce que ce bullshitter est un enfant du postmodernisme?
Je ne le crois pas. En fait, je pense qu'on exagère l'influence, et peut-être je l'ai fait moi-même dans certains cas, de ce qu'on appelle le courant postmoderne, c'est-à-dire un courant relativiste, un courant vériphobe, qui a eu une grande influence intellectuelle, disons, dans les 30 dernières années, et qui maintenant tend à être beaucoup moins influent. Je pense en fait que le problème vient de ce que un certain nombre de philosophes, d'intellectuels, ont simplement épouser l'air du temps. C'est pas eux qui l'ont créé. En revanche, ce qui n'est pas bien pour un intellectuel à mon sens, je m'excuse de m'exprimer aussi en ces termes un peu moralisateurs, ce qui n'est pas bien, c'est de ne pas être critique, c'est-à-dire de suivre les courants de l'air du temps, de suivre le temps sans s'y opposer. Alors, ça peut paraître un peu étonnant de dire que Foucault a été dans cette situation, mais en réalité, il me semble avoir tout à fait suivi le mouvement de méfiance vis-à-vis de la connaissance qui a commencé à gagner son époque. Quant au bullshitter, eh bien en effet, c'est quelque chose de tout à fait nouveau, qui n'existait pas à l'époque postmoderne et qui est cette espèce d'attitude que l'on a, aussi bien dans le discours politique, évidemment le cas du président américain actuel et d'un certain nombre d'autres dirigeants est particulièrement évident, qui consiste à dire à peu près n'importe quoi, c'est-à-dire à affirmer des choses sans les justifier, sans donner de preuves et en espérant simplement que ça va avoir un certain nombre d'effets.
D'ailleurs, sur Trump, vous disiez, pour lui, l'important n'est pas tant qu'on le croit, qu'on croit ce qu'ils disent, mais qu'on croit en lui.
Oui, en ce sens-là, il y a quelque chose qui est nouveau dans le mode du discours politique, qui est ce que on pourrait appeler une crise de l'assertion. Cette crise de l'assertion, elle a déjà eu lieu autrefois dans la littérature. Rappelez-vous André Gide, il fallait être disponible. Ça a existé dans la littérature. Et ben, ça nous a atteint dans le domaine politique. On ne demande plus de compte à un homme politique de ce qu'il dit. Ce qui nous intéresse, ce sont les effets, et lui, ce qui l'intéresse, ce sont les effets. C'est pour ça qu'il peut dire des mensonges totalement éhontés. Alors ça, ce sont les hommes politiques. Mais à mon avis, ça transparaît aussi dans beaucoup d'autres discours. On n'ose plus dire ce que l'on pense, on n'ose plus affirmer quelque chose, parce que si on affirmait quelque chose, il faudrait s'en justifier. Et c'est loin d'être clair que les hommes politiques soient les seuls à faire du baratinage. Mais en même temps, le baratinage, c'est pas nouveau. Je veux dire, ça existe depuis l'Antiquité, depuis qu'il y a des coiffeurs, ça existe depuis que Figaro existe.
Alors qu'est-ce qui est vraiment nouveau ?
C'est pas nouveau, mais si vous voulez, ça n'existait pas dans le monde public. Ce qui est nouveau, c'est l'émergence d'un homme politique qui, en quelque sorte, s'en moque. J'appelle ça, moi, la foutaise. Il s'en... point de suspension. Et donc... en ce sens-là, il y a réellement quelque chose de nouveau. Vous me direz, bon, est-ce que les fascistes italiens, les nazis, n'utilisaient pas ce même type de discours ? Oui, mais pas avec une espèce de justification qui était que la vérité n'a pas d'importance, d'indifférence à la vérité. Ça me semble être quelque chose de nouveau. Peut-être que je me trompe, mais il y a eu un pas qui a été franchi, et c'est peut-être ce que veulent dire les journalistes qui avaient mis le mot post-vérité en 2016 comme le mot de l'année. Donc il y a eu de ce point de vue-là peut-être bien quelque chose comme un changement d'époque qui est lié évidemment à tout un ensemble d'autres facteurs, la manière dont l'information se diffuse, la manière dont on appréhende la parole publique.
Ce qui est intéressant, vous le dites, c'est que d'un côté, il s'en moque, il se moque de savoir si ses assertions s'accordent avec la vérité, mais en même temps, il ne sort pas du registre du vrai ou du faux. Et du faux, il s'y inscrit quand même dans ce registre-là. Vous écrivez aussi, Pascal Angèle, que le marketing, la publicité, Internet, aujourd'hui, sont des usines à produire de la foutaise à grande échelle. Est-ce que la solution, pour vous, c'est ce qu'on pratique actuellement et avec ardeur et volonté, le fact-checking? Est-ce qu'il faut chercher à prouver la véracité de toutes ces insertions?
Non, certainement pas. Et si vous êtes dans une réunion mondaine et que vous savez pas de quoi vous voulez parler et que vous voulez évoquer le temps qu'il fait ou bien la hausse des prix des carburants, c'est pas nécessairement des choses sur lesquelles on va vous demander systématiquement une justification. Donc, bien sûr, je suis pas en train de dire que il faudrait être une espèce de puritain de la vérité au sens où chaque fois que quelqu'un me dit « passe-moi du sel », il faudrait demander une justification de savoir s'il y a du sel sur la table. Non, je ne dis pas ça. En revanche, c'est vrai que nous nous sommes habitués, sans doute un petit peu trop, à un discours dans lequel, en fait, on cherche des effets. Regardez, par exemple, la manière dont on parle souvent dans le journalisme, de l'effet X, l'effet Y. Ce qu'on veut dire en général par là, c'est que ce qui intéresse, c'est la manière dont quelque chose est reçu, la manière dont ça touche, ça impacte un certain type de public, pas la question de savoir si c'est vrai ou faux. Et une des choses d'ailleurs, quand dans mes études de philosophie qui m'avait le plus frappé, c'était lorsque nos professeurs nous disaient « ne cherchez surtout pas à savoir si les philosophes que vous lisez sont vrais ou faux, disent des choses vraies ou fausses, demandez pas, simplement commencez d'abord par les apprendre, par les réciter ». Bon, évidemment, c'était particulièrement mal placé dans un domaine comme celui de la philosophie qui est supposé être critique, mais dans la vie quotidienne, on pourrait peut-être aussi avoir un petit peu plus un petit peu moins de bavardage. Alors, il y a beaucoup d'auteurs qui ont, comme Karl Krauss ou comme Robert Musil, critiqué le bavardage dans leur époque. C'est vrai qu'ils ont critiqué la presse de cette manière-là, et on peut dire que ceci a atteint le cyberespace, c'est-à-dire que tous ces phénomènes-là sont extrêmement liés. Alors vous me disiez aussi qu'en ce qui concerne, par exemple, la manière dont on utilise les réseaux sociaux, et vous me parliez de l'attitude de Trump, je vais juste attention, prenez juste garde à ce fait. Il ne répond jamais quand il discute sur Twitter à différents posts pour dire c'est vrai ou c'est faux ou pour les justifier, il les retweete. Retweeter, ça veut dire simplement passer la parole, le relais à quelqu'un qui va lui-même se faire son opinion. Donc on n'affirme rien, on se contente simplement de passer le relais.
Invité jusqu'à 13h30, le philosophe Pascal Angèle à l'occasion de la parution de « Les vices du savoir », essai d'éthique intellectuelle qui paraît chez Agone Éditions. France Culture, il est 13h20.
France Culture, La Grande Table, Olivia Jesbert.
Dans cet essai, Pascal Angèle, vous plaidez pour l'institution d'une éthique proprement intellectuelle. Mais alors qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'il y a une posture de droiture qu'on peut retrouver dans certaines figures du sachant ou du savant? Est-ce qu'il y a une manière pour vous, aujourd'hui, de bien penser, d'exercer une sorte de pensée vertueuse? Est-ce à cela que vous appelez aujourd'hui?
Il y a trois manières de concevoir une éthique intellectuelle. La première, c'est de dire simplement que quand on fait en quelque sorte bien son travail dans le domaine intellectuel, quand on fait ce qu'il faut pour connaître, par exemple quand on est un savant, qu'on propose des théories, qu'on les teste, eh bien à ce moment-là, on est éthiquement bon juste parce que on a fait son travail. C'est d'ailleurs lié à l'idée, par exemple, de déontologie, de règles dans la science. C'est au nom de ça qu'on accuse les fraudeurs et ainsi de suite. Il me semble que ça, c'est une vision qui est correcte dans une certaine mesure, mais qui est trop étroite de la notion de d'éthique intellectuelle. C'est juste l'idée que on fait bien son boulot et qu'il y a une espèce d'hygiène dans le domaine intellectuel. Ça, c'est la première. Mais il y a une autre idée, il y a une autre conception qui serait une conception un petit peu victorienne, un petit peu puritaine, comme je disais tout à l'heure, qui est celle que prononce le savant victorien William Clifford. On a tort de croire quoi que ce soit sans avoir des raisons suffisantes et avec un ton en quelque sorte moralisateur. Là, si vous voulez, c'est l'éthique intellectuelle au sens où ça met de l'éthique à l'intérieur du soi-va. Et ça, je ne trouve pas ça non plus tout à fait la bonne manière. Bien que mon titre puisse donner cette impression, je ne crois pas qu'il faille moraliser les valeurs de la connaissance et moraliser la connaissance. À mon avis, l'éthique intellectuelle se situe plus ou moins entre ces deux niveaux. D'un côté, le niveau où on cherche à savoir quelles sont les règles du penser correct, et d'autre part, le niveau où on détermine comment ces règles se trouvent appliquées dans la conduite. Et c'est là que j'introduis une notion qui a été beaucoup utilisée dans la philosophie contemporaine, c'est la notion de vertu épistémique ou de vertu intellectuelle. C'est pas nouveau parce que c'est chez Aristote, mais si vous voulez, l'étude que je fais des différents vices, et non pas des vertus parce que je fais plutôt une éthique négative, des différents vices intellectuels est une manière d'essayer d'expliquer comment l'éthique se découle des devoirs et des normes de l'intellect.
Parce qu'il y a danger, effectivement, à partir du moment où on met de la morale sur tous ces sujets-là, sur ces questions-là. Vous citiez tout à l'heure Karl Kraus. Je vous propose d'écouter maintenant Jacques Bouvresse, philosophe du langage, professeur honoraire au Collège de France, que l'on recevait ici, à la Grande Table, à l'occasion de la parution de Les Premiers Jours de l'Inhumanité, fin connaisseur de Karl Kraus, que vous avez connu, je crois, vous, Pascal Angèle, Jacques Bouvresse, au Collège de France.
Si vous dites il y a quand même des fêtes, évidemment, on voit immédiatement quelqu'un qui arrive armé avec les armes de Nietzsche, qui vous explique que il y a des interprétations, il y en a autant qu'on veut. Alors on assiste à des choses qui sont tout de même étonnantes. Je pense par exemple au tournant qui a été pris par quelqu'un comme Bruno Latour, qui pendant longtemps nous a répété, ça me mettait passablement en colère, que les théories scientifiques ne sont que des constructions sociales plus ou moins arbitraires, pas forcément très différentes des fictions romanesques, etc., et même probablement pas différentes du tout. Et puis jusqu'au moment où, voyant ce qui est en train de nous arriver, quand on voit des négationnistes déchaînés qui nient d'abord la réalité du changement, du réchauffement climatique, à ce moment-là, il dit « Ah, mais peut-être quand même que la science est capable de mettre en évidence des faits objectifs et des réalités objectives. » C'est-à-dire le philosophe qui se dit à un moment donné « Ah ben, s'en prendre systématiquement à la vérité, ça a un effet libérateur, donc on le fait. » Et puis quand on voit que ça va trop loin, que ça devient dangereux, bon, on adopte une position inverse. Je pense que je suis avec Badiou, c'est un des rarissimes points sur lesquels je suis d'accord avec lui. Je suis le seul, à peu près le seul, à avoir pris ouvertement depuis toujours la défense de la notion de vérité objective.
Voilà ce que serait à ses yeux, ceux de Jacques Bouvresse, l'absence de considération pour la vérité, Pascal Angèle.
Bon, Bouvresse a été mon professeur, ça a été un de mes principaux inspirateurs, je suis tout à fait d'accord avec lui. Je serais peut-être un peu plus... Bon, il n'y a rien dans tout ce qu'il dit avec lesquels je pourrais être réellement en désaccord. Là où peut-être il y a une différence entre la manière dont il aborde les choses et moi, c'est que je ne suis pas absolument sûr, d'abord, qu'il ait raison de se mettre en accord, comme il le dit, avec Badiou quand il veut parler de la vérité, parce que je pense que Alain Badiou a une conception assez particulière de la vérité. J'espère que ce n'est pas la même que celle de Jacques Bouvresse, même si c'est effectivement une notion de vérité objective. La deuxième, c'est, si vous voulez, que je ne suis pas absolument sûr, toujours en lisant Jacques Bouvresse, y compris son livre sur Karl Kraus, qu'il n'ait pas une conception un peu différente de la mienne de l'éthique intellectuelle. Jacques Bouvresse s'est beaucoup inspiré de Wittgenstein, et souvent, quand il aborde ces problèmes-là, il a tendance à traiter les vices intellectuels comme des maladies. Il a tendance à avoir une vision un petit peu thérapeutique. Et ça me gêne un peu parce que quand vous avez une maladie, ou bien il y a des remèdes et des médicaments, ou bien alors on attend que ça passe. C'est vrai que si ce sont des maladies de l'époque, en un sens, elles sont tellement énormes, ces maladies de l'époque, qu'il est assez difficile de pouvoir s'imaginer, seul et contre tous, pouvoir s'y opposer. Donc, dans mon approche est un peu différente. Je m'appuie plus sur une conception normative de l'éthique. C'est-à-dire, j'ai une théorie des valeurs, j'ai une théorie des devoirs, une théorie qui a d'ailleurs pas mal de rapports avec ce que les philosophes stoïciens appelaient les devoirs, les choses qu'il faut faire, qu'il ne faut pas faire. J'ai une vision qui est assez liée à l'idée de en ce sens-là, d'obligation intellectuelle. Et j'ai une conception aussi des vices, qui est une conception, là, plutôt de type aristotélicien, qui consiste à essayer d'analyser un certain type de caractère. Et c'est là que je fais pas quelque chose nécessairement semblable à ce que fait Bouveresse.
Mais en quoi, pour vous, Pascal Angèle, c'est aussi une affaire de croyance? Quelle éthique, là, de la vérité par rapport à la croyance? C'est-à-dire, comment concilier cette éthique intellectuelle et puis le fait de respecter toutes les croyances ou d'être dans une liberté de croire?
Alors, je suis pas sûr que y ait une si grande liberté de croire, au moins au sens, si vous voulez, fondamental où je me place. Je veux dire la chose suivante. Ce que j'essaie de faire dans ce livre, c'est de remonter aux sources de l'activité intellectuelle. C'est pour ça que je pense pas que mon livre porte particulièrement sur les intellectuels ou une catégorie particulière de gens qui s'intéresseraient, qui feraient l'intellect. C'est l'attitude de tout le monde. C'est l'attitude du croyant ou du jugeant, de la personne qui juge en général. Même si vous allez au marché et que vous portez un jugement sur les tomates que vous allez acheter, vous avez une certaine sorte de croyance. Elle est supposée être vraie, elle a des conditions de correction. Donc j'essaie de remonter à ce que c'est que la pensée, à ce que c'est que la croyance, pour en dériver les conditions de correction. C'est pour ça que je m'intéresse beaucoup à la notion de croyance. Alors maintenant, en ce qui concerne les croyances, en particulier religieuses, auxquelles je consacre un chapitre, j'ai aussi une position qui est la même que celle que je défends dans le livre, que j'appelle évidentialiste, ce qui ne veut pas dire qu'il faut se fier aux évidences, mais qu'il faut se fier aux preuves. Et donc, je défends là une conception très proche de celle des philosophes des Lumières, qui consiste à dire ne croyez pas n'importe quoi tant que vous n'avez pas, en quelque sorte, vérifié. C'est d'une très grande banalité, mais il me semble que là aussi, ça fait partie des choses qu'on en a tendu à oublier. Et en matière de religion, ce que je tends à soutenir dans ce chapitre sur la religion, c'est qu'on ne peut pas croire n'importe quoi tant qu'il n'y a pas d'épreuves. Ce qui n'est pas nécessairement contre la position de certaines croyances religieuses, mais évidemment c'est contre une certaine conception de la religion. Conception dont je ne suis pas complètement sûr que Wittgenstein, le maître de Jacques Bouveresse, dans une grande mesure, soit tellement... je ne pense pas que Wittgenstein soit un évidentialiste en ce sens-là, quelqu'un qui demande des preuves. Il avait une vision tout à fait différente de la religion.
Voilà, et dans cet ouvrage, vous produisez aussi une sorte de taxinomie des vices et des vertus. Votre essai s'appelle « Les vices du savoir ». C'est donc un essai d'éthique intellectuelle qui paraît chez Agone Éditions. Merci beaucoup à vous, Pascal Angèle, d'avoir été autour de cette grande table. Merci à toute l'équipe de la grande table qui l'a préparée et programmée, cette émission, à Maya Neskovic et Laura Dutèche-Pérez, à Auriane Delacroix et Henri Leblanc, avec l'aide précieuse de Jeanne Copé, de Mathilde Tonfourcade et d'Antoine Suzarelli. À la réalisation aujourd'hui, c'était Milena Elig avec Jacques Hubert. Très bel après-midi à tous sur France Culture.